Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio Emma, la radio des adolescents hospitalisés à l'espace méditerranéen de l'adolescence, implanté à l'hôpital Salvator de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. À l'occasion de la journée internationale des TCA, troubles des conduites alimentaires, nous proposons ce podcast en partenariat avec l'association AAB13, dont deux représentantes sont parmi nous aujourd'hui, Séverine Aurard et Sophie Ducrèze. Bienvenue à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, nous sommes réunis aujourd'hui avec les adolescents de l'hôpital de jour TCA, c'est-à-dire donc des troubles des conduites alimentaires, un service dirigé par le docteur Flora Batte, sous la responsabilité du professeur David Dafonseca, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Séverine Aurard et Sophie Ducrèze, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour représenter les parents d'adolescents souffrant d'anorexie et poser à nos adolescents autour de cette table un ensemble de questions que les parents se posent et pour lesquelles ils n'ont pas forcément de réponse. Nous allons donc échanger tout au long de ce podcast autour de ces questions auxquelles les adolescents ici présents tenteront de répondre. Nous allons commencer par la première question.
En tant que parent, vous voudriez savoir comment s'organise votre hospitalisation de jour ?
Eh bien, on est 5 le matin et l'après-midi. On peut avoir au début 2 demi-journées ou une journée en entier. Donc ça commence à 9h le matin, on mange à midi et demi à peu près, et on termine à 15h30. Et si on fait que la matinée, on fait 9h, 13h30. Et si que l'après-midi, 13h30, 15h30. Et l'après-midi, le plus souvent, on a des activités, l'APAS, l'activité physique adaptée, des groupes de musique, des groupes artistiques, etc. Voilà. Et le matin, on a les consultations.
Comment vivez-vous cette hospitalisation de jour ?
Honnêtement, ça fait pas longtemps que j'y suis, parce qu'au début j'étais en temps plein. C'est un moment aussi où ça me permet de retrouver les anciens qui étaient en temps plein avec moi. Et c'est plutôt agréable de revoir les anciens. Et c'est un moment où on se recentre un peu avec des rendez-vous, des entretiens sur toute la semaine qu'on a passée du coup. Donc ça permet de faire le point, c'est important.
Et toi, tu l'avais comment cette hospitalisation de jour ?
Je la trouve bien, ça nous aide. On a un peu fait des liens avec pendant l'hospitalisation avec des personnes et du coup, c'est bien, on se retrouve, on parle, il y a les consultations pour nous aider, pour dire ce qui va pas, pour parler, plein de choses comme ça, et ça m'aide.
Tu sens que ça t'aide ?
Oui.
De quelle manière ?
La pesée ou les consultations de m'aider et tout, mais après ça m'aide, mais c'est dur de l'appliquer.
Parce que ?
Et la maladie, elle est toujours là.
D'accord. Merci pour ces premières réponses. Je vous propose d'écouter tout de suite le petit spot de la journée mondiale des TCA, des troubles des conduites alimentaires, en cette journée du 2 juin, journée mondiale des troubles des conduites alimentaires.
L'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique sont des maladies graves qui touchent 900 000 personnes en France. On les appelle les troubles des conduites alimentaires ou TCA. Le 2 juin prochain, c'est la journée mondiale des TCA. Pour les reconnaître, pour en parler, pour dire que des aides et des traitements existent. Hashtag NoMoreTCA.
Nous sommes de retour avec Séverine Aurard et Sophie Ducrèze de l'association AAB13, en partenariat de ce podcast avec l'hôpital Salvator et Radio Emma. Pour poser les questions que les parents se posent autour de l'anorexie pour leurs adolescents, et auxquelles les adolescents d'ici tentent de répondre.
Quels sont vos ressentis par rapport aux autres camarades hospitalisés ou aux autres malades souffrant de TCA ?
C'est-à-dire le ressenti, c'est par rapport à eux, comment on se sent ?
Oui, par exemple.
C'est difficile de voir les autres souvent parce qu'on se pose beaucoup de questions et on se compare beaucoup. Parce qu'on se dit, elle a perdu plus que moi ou... Elle est plus mince que moi. Des fois, c'est très délicat. Parce qu'il y a des patients, des fois, qui font un peu des bourdes sans s'en rendre compte. c'est des fois compliqué le contact avec d'autres patients. Mais des fois, ça aide beaucoup. Parce que, par exemple, moi, je me suis fait amie avec une du temps plein. Et on est devenu très proches parce qu'on vivait les mêmes choses. Donc, des fois, ça aide parce qu'on se sent compris. Que des fois, c'est... Il n'y a que dans ces endroits-là qu'on se sent vraiment compris parce qu'on vit les mêmes choses et on a le même âge, on a un peu la même situation, même si des fois la maladie, elle a des aspects très différents selon les personnes. Ça peut aider des fois, donc c'est assez... Il y a deux facettes en fait.
Quand je suis avec les autres, oui, c'est un peu dur. Enfin, surtout moi, quand j'étais hospitalisée, je me comparais beaucoup aux autres. Mais du coup, je disais oh non, enfin, il a trop perdu, moi je veux faire pareil. Enfin, c'était hyper dur et voilà. Mais sinon, oui, vraiment, ça peut être des amis, dans la vie après, mais... Enfin, vraiment, on est social et on s'aide beaucoup entre patients.
Merci beaucoup pour ces réponses. Nous poursuivons avec la question suivante.
Comment décririez-vous, en fait, un enfant malade? Comment se voit-il dans un miroir?
Comme la plupart, je pense. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de dysmorphophobie de mon corps. Et c'est très dur, surtout au niveau de mes cuisses. Je les trouve énormes, voilà. Ou dans le corps, c'est hyper dur. Et même là, encore à l'âge des J, c'est assez dur encore. Et du coup, je dois l'accepter, mais c'est dur. Et sinon, je pense que c'est pareil pour les autres, mais on s'entraide beaucoup.
Oui, quand on se voit devant un miroir, on se voit vraiment différemment de ce qu'on est dans la vraie vie. Quand, par exemple, j'étais au plus bas, pour moi, j'étais toujours aussi grosse qu'avant. Jamais je me suis dit, là, t'es mince, ou t'es maigre, ou t'es un peu trop bas. J'ai toujours été très haute, pour moi, dans ma tête, même si ça l'était pas dans la vraie vie, parce que les chiffres le prouvent. Mais tant qu'on se dit qu'on est grosse et que... on n'est pas comme il faut, notre tête, elle va se dire, oui, on est grosse et on n'est pas comme il faut. Du coup, elle va nous faire voir grosse et pas comme il faut. Donc, c'est un cercle vicieux après. Donc oui, le miroir, c'est une épreuve compliquée quand on a de la dysmorphophobie. Et c'est dur à enlever. Parce que c'est dur de se dire qu'on est bien et qu'on est mince ou qu'on s'accepte comme on est. C'est une étape longue, difficile et... éprouvante moralement, parce que on se combat contre nous-mêmes, donc c'est un peu compliqué.
Merci beaucoup, c'est très touchant de vous entendre et très riche surtout de vous écouter.
Comment pensez-vous que votre famille vit la maladie?
Ma famille, quand j'avais des visites ou des permissions, elle me disait que c'était très dur. Mes frères souffraient, oui, mais parfois pleuraient parce que je leur manquais. En tout cas, c'était très dur pour eux. Et moi, quand je m'apprécie pas beaucoup, je veux toujours être à la hauteur, toujours être parfait, je me disais non, c'est faux. J'intéresse personne. Mais je sais que moi, c'est juste ma tête qui me dit ça, c'est faux. Et aussi, quand j'allais à la maison, on faisait des câlins, on était contents de se revoir et voilà.
Moi, je sais pas trop comment ils le vivent, mais sûrement pas très bien. Mais je pense que c'est compliqué pour la famille de suivre le rythme des patients anorexiques, parce que rien que quand on est en temps plein, on doit avoir des permissions, donc on doit être disponible tous les week-ends, on doit avoir le protocole alimentaire, on doit avoir les rendez-vous. C'est quand même lourd comme processus pour les parents, parce que rien que pour le travail, il faut faire des concessions, il faut, faut pas venir au travail certains jours pour être au rendez-vous. Faut faire certaines concessions. Et puis même au niveau moral, je pense que c'est compliqué parce qu'on se pose beaucoup de questions. En tant que parent, je pense qu'on ne comprend pas forcément la maladie directement. Et même en tant que patient, des fois, on la comprend pas toujours. Mais de se dire « oui, mon enfant est anorexique », ben on se pose beaucoup de questions sur pourquoi, sur « est-ce que c'est ma faute ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Je pense en tout cas que c'est ça. Mais je pense que c'est aussi beaucoup plus compliqué que ça. Donc, voilà.
Et je voudrais rajouter aussi que notre famille nous voit maigres, minces, oui. Ça doit être très dur. Parce qu'avant, on n'était pas du tout comme ça. On vivait, on mangeait, on faisait du sport. Enfin, on était très bien. Et là, de nous voir comme ça, triste, pas de morale, maigre, osseux, ça doit être un peu dur.
Ouais. Oui, je suis d'accord.
Après votre journée d'hospitalisation de jour, vous retournez chez vous. Et quelles sont les relations que vous avez envie d'avoir avec vos parents ? Est-ce que vos parents ont un rôle à jouer pour vous accompagner ou pas ?
Ben moi, je suis très fermée, en fait. Je suis très fermée parce que c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais j'ai pas envie de les laisser gagner, en fait. Parce que mon père m'avait dit souvent que les docteurs étaient un peu rassurés sur mon état. Et en fait, quand on m'a dit ça, moi je me suis dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis pas assez malade pour eux ou je me fais pas entendre, ou enfin je sais pas. Donc du coup, j'avais pas forcément envie de laisser la maladie s'éteindre parce que elle est toujours très présente. Donc après, quand je rentre chez moi, c'est difficile pour mes parents de me dire « mange un peu plus » ou « suis ton protocole » parce qu'ils savent que derrière, je vais leur dire « non, en fait, je ne mange pas ». Parce que la maladie, elle est là et elle n'est pas effacée pour l'instant, quoi.
Oui, c'est très dur. Enfin, moi, j'ai envie d'écouter que la maladie. Par exemple, quand je revenais chez moi... par exemple ils oubliaient un plat ou un ingrédient, enfin non, mais par exemple si c'est oublié le yaourt, j'allais pas dire non, vous avez oublié, faut le remettre et tout. Enfin, au début j'étais comme ça parce que je voulais guérir, je voulais pas retourner à l'hôpital, mais maintenant depuis que je suis sortie, ça va un peu moins bien, et s'ils oublient un truc, la maladie elle me dit je suis content, c'est cool, je prends de moins en moins de poids, enfin je mange moins, c'est bien. Et je voulais jamais être d'accord avec mes parents, pas pour me disputer, mais juste pour être d'accord avec la maladie. Et aussi, mes parents, enfin, j'étais d'accord avec eux, mais je leur parlais parfois pour me dire mes problèmes, tout ce qui allait pas, et ils m'aidaient, mais je voulais toujours écouter la maladie.
Est-ce que vous pensez que le suivi pour les TCA est important ? Ou est-ce que parfois vous aimeriez gérer vos difficultés tout seul ?
Je dis beaucoup de fois bas. moi, quand j'étais pas hospitalisée, j'étais juste chez moi, mais j'étais vraiment malade. J'aurais aimé en fait juste me dire. Je disais beaucoup à mes parents. Non, mais je vais me débrouiller, je vais plus manger, mais je vais continuer le sport, enfin, tout ça, je le disais, mais en fait, à chaque fois, je m'enfonçais encore plus, et en fait, rien ne me suffisait, il fallait toujours que ce soit encore plus bas, plus bas, plus bas, encore trop, enfin, c'était encore trop gros, en fait, fallait jamais que ça s'arrête, et du coup, quand j'ai été pris en charge à l'hôpital Salvator, enfin, au début, c'était hyper dur. Je faisais quand même du sport. Ma famille me manquait. Un jour, il y avait des visites. J'ai dit que je partais avec eux. J'ai crié. Enfin, j'ai fait une sorte de crise et les infirmiers m'ont retenu. Et à la fin, après une mois d'hospitalisation, ça allait mieux et j'ai su que ça allait m'aider.
Moi, d'un côté, si on écoute la maladie, on n'a pas envie d'être suivi. Parce que quand on est suivi, on a un protocole, c'est carré, c'est encadré. Donc quand on est vraiment dans la maladie, c'est compliqué à l'entendre, qu'on est suivi. Mais d'un côté, ça empêche de faire certaines choses, le protocole alimentaire. Même si, si on n'en a pas, on est tenté de ne pas manger certains aliments. D'un côté, c'est un peu restrictif. Donc,
Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses et pour votre honnêteté. C'est très instructif.
Les parents se permettent parfois de faire des commentaires ou même des compliments sur le poids ou l'apparence physique de son enfant. Et parfois, ces remarques peuvent être maladroites. Du coup, comment le parent peut-il aider au mieux son enfant ?
Moi, oui, ça m'est arrivé que mes parents disent, par exemple, mon père, quand j'étais sortie de l'hôpital ou même quand j'avais des permissions, il me disait « C'est bien, t'as bien mangé, c'est bien, tu continues tes efforts. » Et moi, je ne disais pas que ça me gênait parce que dire « T'as bien mangé », pour moi, ça veut dire « C'est bien, tu manges. Pour moi, l'idée que j'avais, c'était juste, je l'ai dit au médecin, quand je mangeais, j'avais juste l'idée d'être un gros porc qui mangeait. Voilà. Et donc j'avais cette idée en tête qui m'énervait, et voilà. Et du coup, donc oui, il faisait des remarques un peu qui étaient gênantes, mais pas trop, parce que je sais que c'est mes parents, ils font pas attention, c'est pas grave, voilà, ils font pas exprès. Et moi, j'aurais bien voulu qu'ils m'aident dans le sens de la maladie. Donc c'est un peu dur à dire, c'est bête, mais non, j'ai plus trop envie qu'ils mettent dans le sens de maladie, mais parfois ça arrive, mais c'est dur.
Est-ce que tu sais comment ils pourraient t'aider ?
En faisant, je sais pas, peut-être pas des compliments ou juste pas de remarques sur mon corps ou sur mon poids, ou voilà.
Oui, déjà, je pense que les remarques, faut vraiment les limiter, parce que en ayant eu des remarques, même positives, hein, c'est jamais bon à entendre pour nous. Je pense que pour aider, il faudrait d'abord demander à la personne, enfin donc au patient, de savoir comment il se sent par rapport à cette situation. Si par exemple, après avoir terminé son repas et que les parents sont contents, il devrait demander comment tu te sens après avoir terminé. Si l'enfant ou la personne dit ça va pas du tout, lui dire nous, on voit que tu fais des efforts, l'encourager sans lui dire que c'est bien. Parce que inconsciemment, le cerveau il va capter que c'est bien, mais sans avoir entendu le mot bien. Donc ça peut être bénéfique inconsciemment. Et il faut accompagner quand même l'enfant sans lui dire qu'on est vraiment fier de lui, parce que ça peut faire vraiment mal d'entendre ça. De se dire ils sont fiers de moi parce que je mange, quoi. Enfin, c'est dur. Donc oui, je pense qu'il faut d'abord demander le sentiment et accompagner le sentiment de l'enfant avec. Lui demander pourquoi ça va pas, pourquoi c'est pas bien. Lui demander comment il peut améliorer ce sentiment, peut-être.
Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci infiniment, vraiment, pour toutes ces réponses qui, je pense, aideront les parents à y voir plus clair et certainement, en tout cas, les accompagneront pour un meilleur entourage de leurs enfants. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils trouveront dans vos réponses des éléments pour éclairer leurs questions. Merci beaucoup à Séverine Henrard et Sophie Ducresse de l'association AAB13 d'avoir été notre partenaire sur ce podcast. Merci donc aux adolescents de l'hôpital de jour TCA, donc des troubles des conduites alimentaires, de l'espace méditerranéen de l'adolescence, de l'hôpital Salvatore, de l'assistance publique, hôpitaux de Marseille. Vous pourrez retrouver ce podcast sur le site de Radio Emma, www.radio-ema.com, et sur le site de la Journée mondiale des troubles des conduites alimentaires, www.journeemondialetca.fr. Merci à tous et à bientôt.